Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. À chaque épisode, les invités partagent des enseignements précieux. Ces clés sont là pour les identifier et vous permettre de ne pas...
Qu'est-ce que tu dirais juste avec le recul, ouais. On sait jamais qu'il y a des personnes qui nous écoutent, qu'on stage là ou qui ont des enfants qu'on stage là, qui sont peut-être dans la même situation. Qu'est-ce que tu changerais à cette période?
Je crois que j'ai eu un déclic, mais tard, à 25 ans. J'étais toujours dans cette dynamique de j'ai envie que les gens m'aiment. Je sais que je suis un peu... Je sais pas, en tout cas que je peux être perçue comme, différente, c'est pas le bon mot, mais tu vois, je sais que je peux avoir un abord froid alors que je suis pas ça, enfin voilà, je sais qu'il y a des trucs qui passent pas bien, quoi. Et donc j'arrive dans cette agence de pub où je bosse à l'époque et je veux qu'on m'aime. Et ça rate pas, les deux personnes avec qui je travaille de façon rapprochée toute la journée ne m'aiment pas. Enfin, tu vois, vraiment, commence à pas pouvoir me saquer, mais vraiment, vraiment, commence même à ricaner et tout. Évidemment, j'en souffre, j'en parle à une pote et elle me dit, non mais tu sais quoi, franchement, arrête, je te connais, arrête de vouloir qu'on t'aime, tu fais ta vie, tu fais plus attention, t'essaies plus de... voilà. Et j'ai suivi ce conseil, et je te jure, la dynamique, elle a changé en une semaine. Et la meuf, en fait, avec qui je bossais, est devenue une super pote, on est toujours potes, en fait. Et je sais pas, il devait y avoir un truc un peu needy de ma part, tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, si je devais revenir en arrière, je pense que j'essaierais d'accepter ma solitude, où il faut traverser des moments où voilà, on n'a pas d'amis, on n'a pas... Et de ne pas, pas essayer de quêter comme ça l'approbation des gens, parce que je pense que ça a vraiment renforcé le côté, harcèlement. Après, un autre truc que je changerais, et qui est, ce serait plus mon assertivité. J'ai découvert le pouvoir assez récemment, mais ça, je pense qu'il faut vraiment de l'âge, mais qui sait, peut-être avec des personnalités précoces. Le fait d'exprimer quand tu trouves que quelque chose ne va pas, c'est un super pouvoir. C'est vraiment un truc... Ça crée pas forcément des conflits, tu vois, indépassables, mais dire là, je trouve que ce que tu dis est méchant. Je trouve, c'est pas un mot que tu peux utiliser au collège, on se moquerait de toi, mais dire là, franchement, t'essaies de me faire du mal et c'est pas ok. Moi, j'ai l'impression d'avoir été plutôt correcte, gentille. En fait, ça a l'air naïf dit comme ça, mais je pense que c'est vraiment un super pouvoir. Et quand t'es témoin aussi, quand t'es témoin de quelque chose de pas ok, ça, je le fais maintenant, c'est nouveau. Ça va faire 3 ans. Je suis témoin de racisme à la poste, tu vois. J'ai le cœur qui bat la chame. Honnêtement, j'ai les mains comme ça parce que c'est ultra difficile. Tu te mets au centre de l'attention. T'es là. C'est pas confort du tout.
Speak up.
Ouais, t'aimerais tellement qu'on le
fasse pour toi.
Tellement qu'on le fasse pour toi.
Ouais, ouais.
Moi, tu sais, j'ai un trauma d'enfance qui est un trauma sexuel. Et je pense qu'a beaucoup conditionné tout le reste de ma vie. Hein, parce que c'est un truc qui arrivait très tôt. Donc je suis au collège, je rentre en métro, je suis parisienne, je rentre en métro, avenue de la République, dans le wagon, il y a, tu vois, deux arrêts avant ma station, il y a un monsieur qui me colle, qui est face à moi, mais tu sais, qui me colle, moi je suis debout contre le strapontin. Franchement, j'ai 10-11 ans à l'époque, et en fait, je comprends pas, parce que tu sais, il me regarde un peu intensément, enfin je comprends pas ce qui se passe, et en fait je baisse les yeux, il avait sa teub sortie. Il avait son pénis sorti. Et je comprends pas ce que je vois à ce moment-là, parce que la couleur, enfin en fait j'avais jamais évidemment vu un pénis. Et en fait, ce que je vois a une couleur que je comprends pas, c'est un peu violacé, donc je suis pas sûre d'avoir bien vu tout. Bon, bref. Je m'extirpe et puis je remonte la rame pour sortir, tu vois. Et le mec me regarde hyper intensément. Et en fait, ce qui m'a marqué dans ce truc-là, c'est pas d'être tombée sur un exhibitionniste, tu vois. Encore aujourd'hui, je me demande si j'ai vu ce que j'ai vu. Parce que la couleur violacée, tu sais, j'ai vraiment douté. Enfin, je pense que souvent, quand t'es choqué, tu peux douter de la réalité.
Ouais, et
de
puis en plus, tu ne connaissais pas, donc c'est ça, tu peux pas reconnaître.
Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est en fait l'absence de réaction des gens dans la rame. Et c'est ça qui m'a le plus, je pense, traumatisée. Pourquoi personne n'a rien fait? Pourquoi personne n'est intervenu?
Parce que c'était visible, quoi, il n'était pas caché.
J'imagine que oui, si j'ai pensé ça.
Ouais.
Parce que c'était pas, il y avait pas une affluence de dingue. Tu vois, je pense qu'il était à 50 cm de moi. De toute façon, c'est chelou un mec, même si on voyait pas son pénis de l'extérieur, c'est chelou. Tu
vois. Coller une fillette, c'est chelou. Mais c'est sûr. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point les gens aiment la facilité. Et c'est tellement plus facile de rien dire.
Ouais. Et puis tu vois, moi j'essaie toujours d'avoir une interprétation optimiste même des pires réactions des gens. Parce que tu vois, déjà, je suis un petit peu recluse, donc si je commence à perdre complètement foi en l'humanité, je vais plus voir que mon chien. Donc j'essaie vraiment toujours de trouver les trucs plutôt, les interprétations plutôt sympas. Je me suis beaucoup intéressée à l'autodéfense féministe. Et il y a un truc qu'on te dit, qui est un super bon conseil, c'est que si t'es agressée dans un lieu public, en fait, il y a un effet, quand t'as plein de personnes autour de toi, la responsabilité est comme diluée. C'est-à-dire que personne, tout le monde se dit, quelqu'un d'autre va intervenir qui va être mieux que moi pour gérer. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est alpaguer une personne précisément. Vous avec le manteau vert, vous avec les chaussures truc, aidez-moi. Et en fait, quand tu t'adresses directement à la personne, elle ne peut... Enfin, tu vois, là, tu t'adresses à son humanité. Et bon, bah, après, tu peux toujours tomber sur quelqu'un qui est là, ciao, démerde-toi. mais normalement, là, t'as pas ce phénomène qui est un phénomène social, finalement, de dilution comme ça de la responsabilité en disant non, mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger, quoi. Et l'autre truc dont je voulais te parler sur le truc hyper intéressant du rôle du témoin, je m'intéresse aussi beaucoup à qu'est-ce qu'on fait des hommes agresseurs sexuels. Je trouve que c'est vraiment un angle mort du féminisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'agression, on parle de les reconnaître, etc. On parle pas de... Enfin, si tu veux, il y a un truc qui mathématiquement pour moi est absurde, c'est qu'on se dit, ok, il y a énormément d'hommes qui ont agressé, violé, harcelé, etc. Les pourcentages, on pourrait dire, d'un homme sur quatre, un homme sur deux, tu vois, à peu près. C'est les constats qu'on voit circuler, tu vois. Et à côté de ça, on a une approche très carcérale qui est, on envoie tous les agresseurs en prison. Alors moi déjà, je suis déjà allée voir une prison, j'ai été jurée aux assises. Moi je vois pas du tout ce que ça apporte comme solution à la société globalement, la prison, à part pour quelques cas de personnes vraiment, tu vois, enfin sociopathes violentes, etc. Dans le cas des agressions sexuelles, des viols, je vois pas en quoi ça solutionne le problème. Ça le décale en fait, ça le solutionne pas.
Ça le repousse.
Je me suis beaucoup renseignée sur qu'est-ce qui existe comme autre programme en fait, pour gérer ça, en fait, qui soit mieux pour les victimes. Parce qu'il faut le dire aussi que le processus judiciaire, c'est un enfer pour les victimes. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux ? Et je suis tombée sur cette initiative qui a lieu aux États-Unis, qui est à New York. Un mec qui a fondé, je crois que c'est Men Against Rape, le nom du truc. Voilà. Et lui, il va faire de la prévention donc, auprès des ados, dans les lycées. Voilà. Et en fait, au lieu de s'adresser aux jeunes garçons en leur disant « ne violez pas », il leur apprend à être des témoins, des gens qui pourraient intervenir en cas d'agression. Et c'est hyper intelligent, parce qu'au lieu d'aller stigmatiser dans les quartiers sensibles les jeunes garçons en disant « on vous voit, vous êtes des potentiels violeurs, on va vous expliquer que c'est pas bien enfin, », tu vois, tout le monde sait sur le papier que c'est pas bien, quoi. Et ben, il va leur apprendre à être un peu des héros et à intervenir. Et en fait, les résultats sont ultra bon, parce que non seulement ces personnes-là interviennent quand elles voient des agressions dans leur voisinage, mais en plus elles n'agressent pas, quoi.
Ah, c'est fort.
C'est de hyper intelligent.
Renverser le stigmate, parce que tout le monde veut être un héros.
Mais bien finalement. Sûr. Mmh. Et d'éduquer comme ça, en passant par un... Ouais, en fait, en empouvoirant les gens, t'arrives à des résultats qui sont tellement plus forts, en fait.
J'aime bien toujours penser aux oppositions que telle ou telle mesure pourrait générer. Et donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est « Ouais, mais ça doit coûter super cher de faire des campagnes de prévention dans tous les lycées pour les ados. » Mais en fait, est-ce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher tous ceux qu'on garde en prison actuellement ? Non, mais... Et comme tu dis, avec une efficacité qui est minime. Donc c'est un peu réévaluer le rapport coût-avantage, entre guillemets.
Non mais la prison c'est une vaste absurdité. Honnêtement, je sais plus. Alors je veux pas te dire des bêtises, mais je crois que c'est 12% de criminels en fait qui sont incarcérés. Enfin, dans les prisons, t'as 12% de gens qui ont commis un crime. Le reste, c'est beaucoup lié aux stupéfiants, c'est les usagers de stupéfiants, les gens qui aussi revendent. C'est beaucoup lié à la précarité en vrai. Énormément des délits routiers. Enfin, en fait, c'est ça, c'est les 80% des détenus. C'est hallucinant.
Je mettrai dans les notes l'initiative dont tu as parlé, comme ça les gens pourront regarder.
Du coup, je n'ai pas fini de te raconter le slut-shaming.
Ah oui, slut-shaming, vas-y.
Donc, parce que lycée, donc slut-shaming, alors que j'ai 13 ans, en fait, on m'appelle la salope. J'avais des Doc Martens jaunes, on m'appelle la salope aux docks jaunes, tu vois, au lycée.
Mais juste parce que tu vas voir des mecs qui leur proposent des verres.
Non, là, c'est parce qu'il y avait une soirée d'intégration et j'avais dansé. Je voulais absolument avoir un copain. Parce que pour moi, qui avait été bien malmenée au collège, je m'étais dit, en fait, avoir un copain, c'est le moyen...
D'être cool.
Exactement. J'avais déjà compris que la valorisation des femmes, enfin évidemment, on l'a toutes compris très jeune, c'était les hommes. Donc je voulais me trouver un copain. Et donc j'ai dansé un peu comme je pensais être sexy, tu vois. Donc un peu genre les squats. Si tu descends, tu remontes. et je suis montée sur les tables et tout. Enfin, j'ai tout donné. Et je suis rentrée bredouille. Et puis donc à partir de cette soirée, j'ai été appelée la salope au Doc Jaune. Et comme je l'ai pas su tout de suite, en plus, j'ai proposé à des garçons de sortir avec moi que je connaissais pas en allant les voir direct. direct, etc. Donc voilà. Et ça, ça a perduré. Donc je fais un fast forward. Là, j'ai 33 ans. Donc je suis mariée, je commence à avoir des aventures. Et ces aventures, donc, je les ai aux États-Unis pendant que je suis en déplacement professionnel. À l'époque, je travaille pour Apple depuis plusieurs années. Et donc, pour les lancements de produits, je vais en Californie. Et c'est dingue parce qu'il y a des gens mais du monde entier qui font le même travail que moi, qui sont publicitaires. Et voilà, il y a une espèce de, tu vois, de truc ultra festif. On se découvre, on est tous des personnalités plutôt marrantes. Et c'est là que j'ai des aventures. Et j'ai un boss qui est facho. Alors, erreur de casting de ouf de la part d'Apple.
Là, vous avez merdé.
Mais j'ai un boss qui est facho. Et mascu, évidemment, ça va main dans la main. Et qui me dit... tu ne peux pas, enfin je sais même pas comment il apprend, tu vois ce que je fais, parce que évidemment je roule pas des galoches au bureau, tu vois, mais bon, t'imagines bien qu'un séminaire de 4 semaines, voilà, les gens papotent, et il me prend, tu vois, comme ça en tête à tête, et il me dit non mais tu peux pas, voilà, tu peux pas salir la réputation de notre équipe, on représente la France, je te jure, les femmes sont des fleurs, tu ne peux pas te rouler dans la boue, j'ai pas envie d'entendre que les mecs du web parlent de toi comme une salope, enfin bon, je te passe les détails. C'était quelqu'un qui... on travaillait vraiment 7 jours sur 7. Et donc, en Californie, il fait chaud. Et le dimanche, il y avait un truc un peu acquis qu'on pouvait venir, tu vois, habiller un peu plus relax. Et donc, je venais en short en jean. Il m'a appris l'expression la plus répugnante que j'ai jamais entendue, qui était « Ah, tu es... » Un jour, il me dit « Mais ah, t'as mis ton short à moustache ?» Et je tique pas, tu vois, je comprends pas c'est quoi le short à moustache. Et il me le redit, tu vois, une autre fois. Et là, je lui demande « Mais c'est quoi ?» En fait, c'est ton short est tellement court que tes poils pubiens dépassent et que ça fait une moustache. C'est ça l'expression. Alors, c'était pas mon cas, j'avais pas les poils pubiens qui dépassaient. Mais c'est l'expression pour dire ras la moule, quoi. C'est dégueulasse, on est d'accord?
Non, mais. C'est dégoûtant.
Imagine ton boss qui te sort
bas,
ça.
Malaisant.
Ton short, sa moustache.
Et moi, il y a un truc, de toute façon, sur la tenue, qui est un de mes grands combats de toujours, où je trouve qu'on bride énormément le corps de femmes, qu'on sexualise le corps des femmes. On veut que les femmes prennent le moins de place possible dans la société, au sens propre comme figuré. Et ça passe aussi par les vêtements, quoi. Donc, mais moi, ouais. C'est un combat de.
Je comprends.
Tu vois, même la dernière fois, j'ai mis une mini-jupe et j'étais là, putain, quand même, elle est courte et tout. Et en fait, je me disais, bah ouais, mais en fait, j'ai le droit. Enfin,
absolument, ouais.
Tu vois, genre, c'est pas un appel à quoi que ce soit. C'est, ouais. J'aime le style, j'aime la marque, j'aime, tu vois, et il faut arrêter d'y voir tout le temps un message derrière. Et si moi-même je me bride, si je change ma tenue, je participe au système qui essaye de couvrir les femmes finalement.
Ouais.
Et c'est à moi de me changer et pas à eux de changer leur comportement, quoi.
Je comprends tellement ce que tu dis, mais en gros j'ai lâché l'affaire. En gros j'ai lâché l'affaire, c'est un renoncement. Ce combat-là, je le mènerai pas.
Si ce passage vous a plu, vous pouvez retrouver la conversation complète directement sur InPower et vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très vite sur InPower.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.